Alors, la crise moderniste. Cette crise a été tue pratiquement pendant des années, et lorsque Émile Poulla a voulu faire sa thèse sur le modernisme, en pratique il voulait faire Loisy et la question sur le dogme, c'était dans les années 56-57, on lui a dit « ne travaillez pas de ça, c'est trop dangereux, c'est trop risqué ». Le magistère n'acceptera pas, mais comme il était dans une université d'État, il pouvait prendre le sujet qu'il voulait. Et donc, c'était encore très difficile d'en parler. Alors, le contexte, je vous le dis brièvement, c'est toute une révolution scientifique à la fin du 19e et du 20e siècle. Il y avait par contre Poincaré, par exemple, qui avait réagi contre le scientisme, qui affirmait la connaissance absolue de la connaissance scientifique. Avec Bergson, il disait qu'en fait, il n'y a pas que la connaissance scientifique. Bergson dit, on comprend aussi les choses autrement avec l'intuition. L'intuition, ce n'est pas une idée qui passe, c'est une pensée-action, c'est une pensée qui fait agir. Blondel, c'est le contraire. Lui, c'était l'action, et il avait de la peine à mettre action et pensée ensemble. Mais toute cette série d'hommes qui travaillaient, alors le roi est un disciple de Bergson, et lui faisait une séparation nette entre la connaissance intuitive et la connaissance intellectuelle, disant il faut bien reconnaître les deux, parce que l'une donne une image très appauvrie. Alors le roi, qui était dans un groupe de penseurs, avait un jour été dans ce groupe-là, comment il voyait les choses sur le dogme, en disant en fait le dogme c'est d'abord l'indication d'une attitude. Et Fonce Griffe, celui qui dirigeait le petit groupe, dit tiens, tu devrais écrire un article là-dessus. Il dit ben oui, je suis prêt, je vais faire un article. Alors, le but principal de cette synthèse qu'il faisait, je suis dans le premier point, le contexte immédiat. La question du dogme donc était dans l'air et Blondel avait fait une synthèse où il voulait montrer que l'Église est à la fois le témoin et l'organe de la raison. Il fallait passer par l'Église, et c'est en tout cas le trait le plus saillant. Et Blondel s'en prenait à le roi, parce qu'il lui reprochait de négliger dans son étude historique la partie spirituelle. Mais le roi dit, je m'intéresse... comment il s'appelle ? J'oublie pour le moment, je suis fatiguée. Loisy ne s'intéressait pas à la spiritualité des personnes, mais au fait sur lequel s'appuyait la spiritualité. Donc il faut pouvoir fonder ce qu'on dit. Et donc Blondel proposait toujours de faire intervenir la tradition vivante, parce que, disait-il, cette tradition contient des expériences, c'est plus large qu'une doctrine. Et donc, Blondel propose un juste milieu entre l'histoire et la théologie. Un autre homme à cette époque-là, un certain Vincent Hermoni, qui était lazariste en 1905, qui était un des tout premiers docteurs en théologie de l'Institut catholique de Paris, qui venait de s'ouvrir. Puis il a été prof de théologie à Paris, à la maison mère de son ordre, et il fut très vite suspecté de modernisme. C'est un mot qu'on avait repris aux Allemands quand il y avait une doctrine un peu nouvelle. Et donc il a été obligé de quitter son ordre parce qu'il ne correspondait plus à l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'il apporte, lui ? Il pense que la vie d'une personne doit être unifiée. Il y a la vie psychologique, il y a la vie religieuse et la vie morale. Il faut les trois. Et la vie rationnelle en plus, mais lui, ce n'est pas ça qui l'intéressait. Et donc, il disait, si on fait un conflit entre la raison et la volonté, ou la raison et le sentiment, ça ne va plus. Il faut trouver une unité entre les trois. Et alors, je passe au deuxième point. Édouard Leroy, lui, suite à ces deux interventions de Blondel, qui mettait l'action en premier lieu et puis la pensée, et Hermoni qui pensait qu'il fallait faire une unité, il va provoquer un débat à la demande de son ami pour présenter le dogme aujourd'hui. Il avait déjà fait ça 2 ans avant, dans une séance de la Société française de philosophie. Franz Grip avait été content et donc dit qu'il ne pourrait pas le faire. Donc, en avril 1905, le roi a 35 ans, c'est à peu près la photo que vous avez. Il est marié, père d'un petit garçon. Il aura encore 5 autres enfants, dont une fille que j'ai eu l'occasion de rencontrer, mais qui était très âgée au moment où je faisais la thèse dans les années 70. Donc, elle était un peu méfiante au début parce qu'elle avait d'autres personnes qui venaient chercher des documents. Elle m'a dit, non, moi je viens parler avec vous, c'est votre père qui m'intéresse. Et donc on s'est rencontrés jusqu'à sa mort 10 ans après. Mais elle m'a appris beaucoup de choses sur la vie et la mort de son père et ses réactions face aux condamnations qu'elle a eues. Et donc, le roi était à cette époque professeur de mathématiques au lycée de Versailles. Il était dans l'enseignement officiel, donc il ne risquait pas d'être condamné. On pouvait condamner son texte, mais on ne pouvait pas l'expulser. Et donc, il profitait d'être dans un terrain où il n'était pas sous la férule romaine. Il ne donnait pas la religion, parce que ça n'existait pas, mais il donnait les mathématiques. Et alors, il savait aussi, dans son caractère, amener à des justes proportions une discussion avec les pères. Il savait faire la part des choses, comprendre ce qui se disait. Et donc, il avait un jour fait un exposé disant: en fait, le savant fait les faits. Les faits, ça n'existe pas, c'est le savant qui, à partir de ce qu'il voit, fait les faits. Ça allait être un très très long dialogue, et le roi disait, les auteurs, à réveiller les savants de leur sommeil dogmatique. Et donc, ces discussions se passaient toujours très bien, mais dès que le roi aborde le problème religieux, les choses ont un petit peu changé. Il est loyal, clairvoyant, et il se met très bien à la place des gens. Il était un professeur exceptionnel, dit-on, comprenant les jeunes. Et à côté de cette fougue et ce goût du risque, il ne parlait jamais de lui. Il était très discret. Et il ne disait pas que sa foi était vraiment l'axe de sa vie. Et il lui semblait indispensable de travailler à rendre cette foi accessible, parce que l'impact de la raison faisait que il y avait des problèmes dans la religion catholique. Et alors, il avait aussi un très grand souci des autres. Et pendant ce temps de crise, il se dit, il faut absolument aborder le problème religieux d'une autre manière. Selon lui, les arguments des traités de la scolastique étaient trop spéculatifs, c'était uniquement la raison. Et il était l'unique preuve pour le croyant, c'est l'expérience de Dieu dans sa vie de foi. S'il ne fait pas une expérience de Dieu, mais qu'est-ce que l'expérience? La foi ne tiendra pas. Et donc le roi, qui était ami de Poincaré, réagissait contre le scientisme qui affirmait la valeur unique, indispensable de la connaissance scientifique. Tout le reste n'a pas de sens. Donc avec Bergson, il soutient qu'on peut saisir le réel avec cet instrument que Bergson appelle l'intuition, et qui lui permettait de séparer la connaissance scientifique de la connaissance intuitive, l'une appelant l'autre. Si on s'en tient uniquement à une connaissance scientifique, cette connaissance donne une image appauvrie de ce qui se passe. Et donc, il se dit, si on pouvait penser le dogme autrement que scientifiquement, peut-être que les scientifiques d'aujourd'hui, soucieux de tenir compte de l'approche intuitive de Bergson, pourrait revenir à l'Église et à la foi. Et donc, il écrit alors un article intitulé « Qu'est-ce qu'un dogme ?» Alors, il a constaté que la plupart des hommes qui sont pétris d'édits nouvelles rejettent les dogmes parce qu'ils leur paraissent impensables. Impensable. Tout ce qu'on raconte, les miracles, la naissance virginale, etc., il faut voir si c'est vrai, à quoi ça correspond. Il ne rejette rien, mais il faut voir à quoi ça correspond. Et donc, cette vision intellectualiste était très liée à la vision thomiste, dont je vais vous parler dans un moment. Alors, le roi pense qu'on peut de manière positive, dire autrement que l'Église, le magistère, ce que un dogme. Il faut rejoindre les formes d'esprit des gens et les rejoindre pour qu'ils comprennent ce qu'on raconte. Pas s'en tenir à une philosophie ancienne. Ça ne veut pas dire que l'autre est mauvaise, mais il y en a plusieurs. Ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, Édouard Leroy, comme mathématicien, était habitué à jongler dans les différents registres et lui refuse nettement d'identifier la philosophie thomiste avec la vérité. Il dit que c'est la position de l'Église, le magistère actuellement, mais ça n'est pas toute la vérité. C'est une manière de voir. Mais dire ça à l'époque, c'était courir une condamnation, ça c'est clair. Et donc, au lieu de dire que le dogme est d'abord une théorie dont on découle une pratique, le roi part plutôt de la réalité visée par le dogme. Donc, par exemple, le dogme de la résurrection veut dire « Soyez avec Jésus comme avec un contemporain. » Il est vivant aujourd'hui, c'est ce que dit le dogme, mais soyez avec lui comme avec un contemporain. Ce n'est pas une idée abstraite. Ou bien, Dieu est personnel, ça veut dire « Comportez-vous avec lui dans la prière comme avec une relation humaine. » Ou alors, le dogme de la présence réelle, par exemple dans l'hostie, en face de Jésus, dites-vous, c'est Dieu qui est présent en face de l'hostie. Donc, pensez le dogme plus largement que la phrase abstraite. Parce que si vous faites entrer cette phrase abstraite dans votre vie, elle aura une toute autre allure. Et vous pourrez communiquer avec d'autres. Et donc, il pense que la réalité sous-jacente au dogme est tellement riche qu'on peut la dire de plusieurs manières. Et donc, attendez, il y a une feuille qui n'est pas à sa place. Et donc, je résume, du point de vue théorique, dit-il, le dogme a une valeur négative. Le dogme nous dit ce qu'il ne faut en tout cas pas faire. Donc ça, c'est clair. Quand c'est non, on sait pourquoi. Mais du point de vue pratique, il a un sens d'orientation pour l'action. Donc, il regroupe dans cette manière de dire la doctrine, l'action et moi qui accepte psychologiquement de regarder les choses sous un autre angle. La personne entière est impliquée. Et donc, dit-il, le dogme est parfaitement acceptable aux autres types d'esprits. Donc, il ne rejette pas, encore que c'était un petit peu sa tendance parfois, la manière dont on dit que le dogme est une vérité à croire, mais il dit qu'il y a moyen d'adhérer au dogme de l'Église, et c'est en mettant en pratique ce que le dogme dit qu'on peut sauver la foi dogmatique. Donc on sauve la théorie par la pratique. Bon. Alors, et cela permettait aussi, très important pour l'époque, de garder la liberté intellectuelle. Ce qui n'est pas évident du tout. Je pense tous, en tout cas ma génération, on a appris à croire ce qu'on nous obligeait de croire. On oubliait vite, mais on n'avait pas tellement de choix. Et donc, Édouard Leroy écrit son article, et alors il demande aux théologiens ce qu'ils pensent. Et Fons Griffe, qui était aussi un intellectuel catholique très actif, cette revue s'appelait La Quinzaine, c'était un peu une revue libérale qui paraissait tous les 15 jours, et qui traitait de toutes sortes d'objets, de toutes sortes de sujets, y compris des sujets religieux, très lus dans le milieu intellectuel. Alors, je suis au quatrième point. Cette question d'Édouard Leroy a été le point de départ d'une véritable bataille d'idées, absolument incroyable. 12 réponses, donc il avait dit « Que pensez-vous ? » Il avait écrit, je crois que je l'ai pas, non, il avait écrit son article, et alors il posait la question « Comment réagissez-vous à cet article ? » Donc, il cherchait un débat et voir comment d'autres pensaient. Il s'adressait en particulier aux théologiens. Et parmi elles, il y avait une figure très intéressante, Antonin Certiange, qui était dominicain, mort en 48, professeur de philosophie morale à l'Institut catholique de Paris. C'est un homme très ouvert, et qui avait pris parti, on le verra dans un moment, pour la position de Leroy, disant « c'est pas la mienne, mais la tienne est tenable aussi. Attitude hyper rare dans le contexte de ce siècle. Il y avait un autre, un certain père Allot, mort aussi en 45, dominicain, mais qui était furieux de cet article. Alors, contrairement à ce qu'écrit un des premiers, je crois que c'est le seul gros volume sur le modernisme fait par Jacques Rivière, lui prétend que cette question posée, que tout le monde a lancé des fleurs à le roi, que c'était très bien, ce qui est tout à fait faux. J'ai encore ce texte chez moi. En fait, il y a eu 12 ou 13 réponses. La plupart mettaient une petite croix en disant « il faut absolument repenser les choses ». Par rapport à le roi, il y en avait 7 qui étaient contre, 3 qui disaient « il faudrait réfléchir ». Donc, ce que a dit Rivière, c'était une manière de discréditer le roi, pour qu'il n'amène pas, lui laïque, des questions théologiques en plein public. Donc c'était tout à fait fou. Donc il faut toujours aller voir les originaux. Même ce que je vous raconte, hein, je ne vous donne pas une liste, mais il faut vérifier. Et donc, 9 réponses donc, sont contre sa thèse, et 3 pour, avec des réserves. Et finalement, qu'est-ce qui était recherché et demandé? Et c'était l'urgence d'une réforme. Il y avait une question réforme, Édouard Leroy pour ou contre. Et donc, sur les 9 réponses, il y avait 13 réponses en tout, il y a 2 réponses qui n'ont pas, personne n'a rien répondu. Pour l'urgence de la réforme, il y avait 9 réponses sur les 13. Il faut absolument bouger. Les gens à l'époque répondaient souvent avec des faux noms, quoi. Ils prenaient un autre nom pour ne pas être condamnés. Donc c'était très courant. Et donc, du coup, la quinzaine, cet article a attiré publiquement l'attention, tout haut, sur ce que beaucoup pensaient tout bas. Et puis, cette urgence que tout le monde souhaitait a créé une polémique. Dans les revues spécialisées, dans la revue biblique, dans les études, les jésuites que nous aimons bien étaient partagés aussi, il y en avait qui étaient contre, tout à fait pour, d'autres pas question. Alors, quelles étaient les positions? Les théologiens conservateurs ont cru que le roi supprimait la pensée. C'est fou. Il parle d'une pensée-action, une pensée qui continue en action. Et il faisait du dogme le point départ d'une série d'attitudes, comme si le roi disait « le dogme c'est faire des choses » et des impressions religieuses plus ou moins obscures. Ça c'était les conservateurs. Je vous dirai après autre chose. Les théologiens modérés redoutaient de voir mettre en péril le primat de l'intelligence sur la pratique. Le plus important c'est quand même l'intelligence, hein, c'est pas la pratique, alors réfléchissez. Donc si on commence à dire qu'il faut mettre en pratique, où va l'intelligence? Ça c'était les modérés. Alors certains représentants des deux camps accusaient, évidemment il fallait s'y attendre, le roi d'incompétence parce qu'il est laïque. Et il ne faut pas demander s'il avait été une femme, c'est encore pire. Donc pas question qu'un laïque vienne se mêler de ces choses religieuses. Alors les amis de Blondel, et surtout la Bertonnière et l'abbé Huerlé, l'abbé Bremont, le sulpicien Moret et un laïc qui s'appelait Delbos avaient des réactions plus complexes. C'était des amis de Blondel et ils avaient peur que la position de le roi mette en question Blondel. Eux ne se tracassaient pas tellement du contenu, mais ils se tracassaient de la personne. Et donc ils étaient d'accord avec le roi, qui a un primat de l'action, en tout cas, mais il refusait la manière dont il le présentait. Pourquoi? Parce que le roi s'appuie sur Bergson et que Blondel n'était pas du tout un bergsonien. Et donc, contre le roi, la plupart des théologiens affirment qu'il y a dans le dogme un énoncé conceptuel vrai qui justifie la pratique. Donc, dans le dogme, il y a un énoncé conceptuel vrai qui justifie la pratique. C'est le concept qui est premier. Et il faut faire une pratique en fonction de ce concept. Alors dans la mesure où ils ne mettent pas assez en lumière que les dogmes sont des visées, le dogme c'est le doigt qui vise quelque chose. Si je dis regardez la lune et que vous regardez le doigt, vous dites réellement il n'y a pas de lune. Mais je ne vous demande pas de regarder mon doigt, je vous demande de regarder la lune. Donc c'est sûr que si vous regardez ici, vous ne verrez pas la lune. C'est un peu ça qui se passait. Et donc, ils étaient embêtés parce que on réduisait le dogme aux seuls énoncés. Et le roi voulait échapper à ce risque grâce à sa conception de personne, une vérité mouvante. La vérité, dit-il, n'est pas un bloc fermé. La vérité bouge. Et l'intuition, c'est ce qui permet de faire bouger la vérité, mais en fondant toujours rationnellement ce qu'on dit. Mais le seul qui a accepté cette position et qui publiquement dans les articles, il faut voir les réponses dans cette petite revue, il avait admis la position de l'homme en disant oui, c'est possible. Et du point de vue de l'orthodoxie, c'est tout à fait défendable. C'est possible. Et donc c'était lui qui était peut-être le seul et vrai interlocuteur. C'est un thomiste prototype et exemple du bon théologien intellectuel qui sait faire la part des choses. Et donc il répond en disant le dogme, on peut le prendre par la théorie thomiste de l'analogie. On peut dire c'est comme, on peut dire c'est comme ça, on peut dire c'est comme cela, et on peut encore le dire autrement. Et le dominicain montre simplement qu'il faut préserver le décalage entre ce que je dis de Dieu et entre ce que Dieu est. Ce que je dis de Dieu, ce n'est pas nécessairement ce qu'il est, c'est peut-être en partie ce qu'il est, mais il y a encore autre chose. En clair, ouvrir les portes. Ne jamais être dans un cercle fermé. Et c'est la tentation qu'a encouragé Jésus au désert. Hein? C'est enfermer Jésus dans des idées tout de suite. Si tu m'adores, tu auras tout. Je ne veux pas tout. Alors, si tu... Quelle est la première tentation?
Le pain, transformer le pierre en pain.
Tout ou rien. Tu auras tout. Alors, après... Allez, vous n'êtes jamais tenté, vous autres.
S'enfermer.
Voilà. Si tu m'adores, tu auras tout. Donc, tu t'enfermes dans moi. Et l'autre, puisque tu te fies à Dieu, alors jette-toi, Dieu va te sauver. C'est chaque fois un enfermement de la personne. Il faut vraiment revenir à ces tentations qui sont d'un concret incroyable. On vit ça tous les jours. Alors, le roi lui dit attention, et le dominicain le soutient, dit Dieu est, c'est un mot. Ce n'est pas une expérience, je dis Dieu est, c'est une parole. Et donc, pour retomber dans les difficultés, le roi dit, en fait, si on parle de Dieu, il faut utiliser, comme Bergson et aussi Sertiange, la pensée-action. Une pensée doit être reliée à une action. Toujours la pensée-action. Mais Blondel est bloqué parce que lui, l'action est première. Donc, il faut qu'il trouve une raison de faire l'action. Tandis que l'action, si la pensée est première, elle va orienter l'action. C'était une très belle philosophie. C'est-à-dire l'action contient, sous la formule, le décalage nécessaire pour parler de Dieu. On n'est pas bloqué, on n'est pas enfermé. Et le roi pensait sauver intellectuellement alors la distance entre Dieu et nous, en évitant... D'abord le piège de l'agnosticisme, c'est-à-dire je ne peux rien connaître. Il dit c'est faux, on connaît certaines choses, mais pas tout. Et le piège du symbolisme et de l'anthropomorphisme, c'est comme Dieu. Les hommes sont comme Dieu, non, c'est pas vrai. Ils sont un peu, mais pas tout à fait. Et ça, c'est très difficile. Et je pense que nous rencontrons beaucoup de gens encore comme ça aujourd'hui. Quand j'étais prof secondaire, ça prenait un temps fou avec les ados de leur apprendre à sortir du tout ou rien. Il y a ça et ça. Alors quand il y a des gens qui sont bloqués, il vaut mieux les laisser dans le blocage. C'est pas la peine. Ça sert à rien. Et ils sont contents. Et s'ils sont contents d'être bloqués, ben, qu'ils restent bloqués. Ils font du bien autrement. Alors à ce niveau ici, il n'est pas question d'orthodoxie. Hein. C'est pas d'orthodoxie ici. C'est une question strictement philosophique. Mais le magistère, à l'époque, veut être le maître absolu. Et donc, il faudra qu'ils trouvent une philosophie qui réponde à leur roi. Alors, pour le roi, il dit, si on veut à tout prix garder un principe, alors que ce principe soit l'action. Parce que si on a de l'action, on est obligé de réfléchir à ce qu'on fait. Et si on ne réfléchit pas, on se casse la figure. Donc, si vous devez vraiment garder qu'une chose, gardez l'action. Le sentiment, ça bouge, et la raison risque de s'enfermer si elle n'est pas ouverte. Et alors, c'est ça qui paraissait ruineux aux scolastiques. Car eux voyaient un principe à sauver pour garder intacte la connaissance humaine sur Dieu. Il faut garder un principe pour que cette connaissance soit juste. Or, le roi ne veut pas sauver la vie intellectuelle. Le roi veut sauver une vie chrétienne dont il voit que c'est de plus en plus difficile pour les gens de son temps. Et donc, il mise sur l'attitude, une attitude respectueuse, respectueuse de la transcendance de Dieu, et qui permet de vivre avec lui une relation comme avec un contemporain. Et la manière dont on vit avec les contemporains est significative de notre manière de vivre avec Dieu. Alors certainement, j'avais très bien compris ça. Mais il pense que la position de le roi, malgré une certaine divergence, peut parfaitement être reconnu par l'Église. Mais le pauvre, il va le payer cher. En fait, pour Sertiange, il y avait une toute petite différence. L'intelligence met l'homme dans l'orientation concrète vis-à-vis de Dieu, tandis que le roi, l'intelligence inclut la sensation pour rencontrer Dieu. Donc la sensation et l'intelligence sont plus liées grâce à l'intuition. Mais on pouvait se comprendre, on sait très bien, toi tu penses comme ça, moi autrement. Et donc, de toute façon, ici, pour ceux parmi vous qui connaissent Théa de Chardin, on voit déjà comment Théa de Chardin, dans son étude de la matière, va y voir aussi une forme d'esprit. Et Théa de Chardin sera un grand ami d'Édouard Leroy. Ils se rencontreront beaucoup dans les années 30, avant que Théa lui-même soit condamné. Les deux hommes avaient 20 ans de différence, mais sont restés des grands amis. Alors, Sertiange et le roi, deux intelligences, deux mentalités, deux formations. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Et s'il faut choisir, qui va choisir? Ça, c'est poser la question de la controverse moderniste. Du point de vue théologique, poser la question de l'autorité et du pluralisme dans l'Église. Qui décide ce qui peut être dit? Et pourquoi il ne peut pas y avoir plusieurs manières de dire la même chose? Alors après bien des déboires, Sertiange se rétracter publiquement, mais intelligemment. Je vais vous lire sa lettre. Sous la pression des évêques protecteurs de l'Institut catholique et disant « si tu continues à défendre publiquement le roi, tu perds ta place ». Et donc c'est embêtant, un esprit ouvert qui va quitter l'enseignement, il vaut mieux qu'il trouve une astuce. Alors je vous lis la lettre de rétractation qu'il écrit. Au cardinal Richard, le 24 novembre 1905, qui a été évidemment publié dans les journaux, et notamment dans l'univers du 25 novembre 1905. Il faut que tout le monde sache qu'il s'est rétracté. Alors, éminence, j'apprends à l'instant que nos seigneurs les évêques protecteurs de l'Institut catholique ont désapprouvé l'attitude que j'ai prise à propos de la question posée par Monsieur le Roi, qu'est-ce qu'un dogme? En parlant comme je l'ai fait, je croyais sincèrement faire œuvre utile et exercer avec l'esprit de la Sainte Église mon rôle d'apologiste de la religion. Très intelligent, avec l'esprit de la Sainte Église, pas avec l'esprit que vous avez, évêque. Mais comme l'autre se prend pour l'évêque, ça marche, mais c'est pas ce qu'il a dit. Mais puisque mes chefs naturels, ça c'est génial, pas mes chefs surnaturels, mes chefs naturels, vous n'êtes pas Dieu, hein, vous êtes mes chefs naturels, ils ont un peu dû râler quand même quand ils ont vu ça, en ont jugé autrement, je m'en remets de tout cœur à leur haute sagesse et désavoue sans restriction aucune ce qui, dans les écrits en cause, a pu paraître inexact ou imprudent. Il ne dit pas « est inexact ou imprudent » comme ils l'ont fait. a pu paraître inexact ou imprudent. Très, très, très intelligent. Et donc, voilà, les évêques étaient contents. Donc, si vous devez répondre à vos évêques, soyez intelligents. Et puis, signez, etc. Mais il y aura un rebondissement, évidemment. La question de la pluralité rebondit aussi dans le camp des partisans de Leroy, entre Blondet et Leroy. Et les Blondéliens, qui avaient beaucoup d'impact, se sont désolidarisés de lui. La Bertonnière, un ami de Blondel, avait fait une petite société où les hommes se retrouvaient pour discuter sur toutes sortes de sujets. Et ils sont évidemment furieux de l'article de Leroy parce qu'il jette un discrédit sur l'œuvre de Blondel. Il commence par la pensée alors que Blondel commence par l'action. Donc ça change la suite. Et Blondel, lui, ne veut absolument pas entrer dans la mêlée parce qu'il a peur d'être condamné et qu'il perdrait son impact. Et donc, une condamnation, ça n'en veut pas. Alors il demande à son bon ami, l'abbé Werlé, d'entrer en lice. Werlé, c'est un... il fonce, c'est un fonceur. Il se fâche, il tape des pieds, il écrit des lettres et il le sait. Il dit, oui, c'est mon défaut, mais c'est un fonceur. Et donc, il va recevoir les notes de Blondel et il va écrire un article, un très 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 long article, de la page 329 à 340, 323 à 349, dans la revue biblique, donc 25 pages, intitulé « De la nature du dogme ». Alors, cet épisode est un des plus passionnants de l'affaire du roi et je reprends ici simplement quelques-unes des conclusions. Donc, par rapport aux Blondéliens, et surtout par rapport à Werlé, le roi ouvre une nouvelle apologétique, c'est-à-dire une nouvelle défense de la foi, qui tient compte des autres manières de penser que la sienne. C'est un esprit très rare. Je tiens compte de ce que l'autre pense, et je l'intègre dans ma pensée, ou je ne l'intègre pas, mais je sais pourquoi je le dis à l'autre. Werlé, lui, tout ou rien. Alors, il veut adapter l'apologétique à la pensée moderne. En clair, il faut qu'on reprenne les idées de Blondel. Et il cherche surtout à montrer le bien fondé de sa position. Le roi essaye de poser une question intellectuelle, l'autre essaye de montrer que sa position est la bonne. On fait ça souvent. C'est de nouveau pas un débat, je veux montrer que j'ai raison. Et alors, surtout, défendre Blondel et sa philosophie de l'action. Et donc, il y a des objections intellectuelles, évidemment, irréfutables. Et donc, le roi propose une interprétation pragmatique du dogme qui préserve la liberté de la pensée. Donc, si le dogme est d'abord une indication d'action, on peut réfléchir sur l'action. Mais s'il est une action d'abord, alors on est coincé. Et donc, il propose en fait une interprétation du dogme qui correspond aux gens à qui il s'adresse, à savoir les amis de Blondel. C'est pourquoi que le roi explique dans sa réaction, il va répondre à Blondel, ce sera aussi très long, 35 pages, dans un petit volume. Il reproduit les idées développées dans son article et il dit « Il faut comprendre ce que je dis sous un certain angle. Essayez de comprendre ce que je dis. N'essayez pas de me convaincre que j'ai tort. » C'est simple, hein? C'est pas évident. Et donc, si on refuse cet angle, celui de le roi, c'est ce que Werlé fait en rejetant les objections des intellectuels. Les intellectuels disent « On ne peut pas comprendre ça comme ça. » Alors il est en porte-à-faux avec le roi et il est rejeté par Merlé du point de vue catholique. Il dit, vous n'êtes plus un chrétien. Et pourtant le roi se sent d'accord avec Merlé qui est un penseur. Il a seulement voulu enlever aux intellectuels un prétexte pour ne pas croire. Donc c'est vraiment un pasteur intellectuel. Et donc les objections ne les fraisent pas. Mais il dit, ce n'est pas par l'apologétique papale qu'on va aider les gens à réfléchir. Et donc, le roi résume sa démarche et dit au fond, d'une part, il faut faire prendre conscience à l'homme de son état de faim spirituel. Si on n'a pas faim spirituellement, c'est pas la peine de se laisser tranquille. Mais leur faire prendre conscience qu'il y a quand même toujours quelque chose qui nous manque et qu'on aimerait bien avoir. Et lui montrer que hors de l'homme, prêt à être saisi, il y a une nourriture préparée pour apaiser sa faim. Donc, pas la chercher en soi, mais la chercher hors de soi. Très difficile aussi. Et la démonstration de la foi découle de la rencontre harmonieuse entre mon désir et le don. Donc, ça, c'est toute une manière de faire de la pastorale intellectuelle. Alors, l'extrinsécisme, donc ceux qui parlent de l'extérieur, ne tiennent pas compte de la première démarche, il ne faut pas aller chercher ce qu'on pense et voir ce qu'on sent. Et l'intrinsécisme dit d'abord ce que je sens et puis on verra. Dans les deux cas, on est bloqué. Parce que les deux systèmes, dit le roi, découlent de la même dissociation abstraite. On ne sait pas séparer en nous l'extérieur et l'intérieur. C'est abstrait, c'est une idée. Et donc, à la suite de la Bertonnière et Blondel, le roi affirme que le surnaturel n'est pas exigé en nous, mais exigeant en nous. Donc il y a quelque chose, il y a une exigence en nous qu'on ne peut pas ne pas voir de temps en temps. C'est tout autre chose que dire « rien ne nous arrive que par le dedans ». Sinon, je suis bloqué. Tout à fait différent. Et c'est pourtant ce que certains contradicteurs ont compris, et même Blondel. Alors, par rapport à Blondel, la divergence avec le roi n'est pas d'abord d'ordre intellectuel. Il ne faut pas oublier cet aspect très 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 important, même dans la théorie et dans les affaires abstraites. Ce n'est pas axé sur une autre manière de voir. Tous deux partent d'un même souci, concilier la pensée contemporaine avec la doctrine de l'Église. Ça, c'est leur point de vue, tous les deux. Mais leur divergence est pour une bonne part psychologique et spirituelle. Et Émile Poulain, dont je n'ai pas le temps de parler, a beaucoup montré que la spiritualité, la psychologie est très importante. Il y a la raison et la psychologie et le sentiment. Il faut tenir compte de la psychologie des gens. Et donc, Blondel, à l'époque, donc en 1905, est assailli et troublé par des soucis familiaux. Il a des problèmes dans la famille, avec les enfants. Le roi, lui, est plein de santé. 6 enfants, en pleine forme, heureux, menant une vie conjugale et familiale épanouie, quand sa fille m'a un peu raconté. Il ne se tracassait pas pour les études des enfants. Écoutez, ça, c'est votre mère qui s'en occupe. Elle fait à manger, vous débrouillez-vous. Et ils sont tous devenus d'un haut niveau. Je retrouve la page. Tous les enfants, l'un devenu avocat, l'autre est devenu médecin, l'autre est professeur, ils ont tous. Sa fille aussi est devenue psychologue. Et donc, ils ont tous fait des études de haut niveau. Mais le père ne s'est jamais préoccupé de savoir s'ils faisaient leur devoir ou non. Donc, une autre manière de faire. Et donc, Blondel, lui, sur un autre aspect de la spiritualité, notre spiritualité est toujours dépendante du contexte dans lequel on vit. Donc, Blondel se sent investi d'une mission spirituelle. On connaît tous des gens comme ça. Et ses amis prêtres le lui confirment. Il y a beaucoup d'amis prêtres qui le flattent. Oui, tu es magnifique. Et il a d'ailleurs songé longtemps à la vie religieuse et à la vie sacerdotale. Il a fini par se marier. Et donc, lui veut sacrifier tout au spirituel, dit-il, qui nous dilate à sa taille. Il faut toujours dilater dur. Hein. Donc, c'est toujours des exigences. Et donc, toute sa vie sera douloureuse. Et le pauvre homme deviendra aveugle en 1927, donc c'est une vie triste. Et sa vie religieuse, douloureuse, va certainement le pousser à avoir une vision un peu doloriste de la vie chrétienne. La souffrance prend beaucoup de place. Il faut être exigeant. Le roi dira qu'il faut être heureux. Et il n'a pas tort de dire à le roi que celui-ci conçoit le surnaturel comme le prolongement de la vie humaine et comme l'épanouissement de la vie humaine. Mais dire ça à ce moment-là, c'est ce qu'on dit maintenant aux enfants, il faut s'épanouir. À l'époque, ça ne se disait pas. Ceux qui le disaient, c'était des grands méchants. Évidemment, le roi a eu la chance d'être éduqué hors des cadres ecclésiastiques officiels. Il avait une sœur, sa mère est morte quand il était très jeune. Son père s'est remarié, ils ont encore eu 4 enfants. Et la belle-mère de le roi, qu'il aimait beaucoup, se rend compte que c'est pas un enfant qu'il faut mettre dans des rails fermés. Et elle a fait venir un précepteur qui l'a éduqué à la maison. Donc il a eu une formation adaptée à ce qu'il était, et donc très poussée. Et donc, il n'était pas coincé dans des spiritualités étroites, même s'il pratiquait, il allait à la messe, il priait. Et il était hors des cadres officiels dans les écoles catholiques, c'était un petit peu le système un peu coincé. Et donc le roi finalement a inventé sa propre spiritualité. Et dès lors, se pose une autre question très importante pendant la crise moderniste. Comment un esprit formé hors du contact de l'orthodoxie peut-il se concilier avec l'enseignement traditionnel de l'Église ? On va voir dans un moment, on va imposer saint Thomas. Très difficile. Là, on voit que la question du dogme est finalement secondaire par rapport à ce problème-là. Et effectivement, le roi dira dans la discussion, une lettre qu'il devrait écrire, le dogme est un exemple, ne vous battez pas sur le dogme, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais comment est-ce qu'on peut, aujourd'hui, vivre la vie chrétienne étant bloqué dans l'enseignement traditionnel de l'Église? Bloqué ou obligé? Et à l'époque, c'était obligatoire, comme je vous montrer. Alors, le roi savait dès le départ, la question du dogme était pour lui un exemple pour illustrer une nouvelle rationalité et par conséquent pour proposer une nouvelle conception de la foi et de l'apologétique. Et le roi a fait le premier exposé à ce sujet dans une rencontre d'un groupe qui s'appelait la Société française de philosophie. C'était tous des philosophes qui se réunissaient régulièrement. Et son premier exposé, c'était sur le dogme justement. C'était un cercle restreint de philosophes, mais c'est là qu'il a commencé un peu à défendre ce qu'il écrira par la suite, avec des réactions. Et c'était la séance du 30 janvier 1902, donc 3 ans avant qu'il écrive son article. Donc il a eu le temps de réfléchir et d'en parler avec les autres. Alors, sa philosophie poincarienne, qui lui apportait l'art de voir la relativité de toutes les formules. Relativité ne veut pas dire que c'est pas bien, mais ça veut dire que c'est en relation avec autre chose. Être relatif, c'est pas mauvais. Ça veut dire qu'il y a un lien avec autre chose. C'est pas tout. Il n'y a pas de tout. Il y a toujours des relations avec autre chose. Sa philosophie de Bergson, qui n'est pas statique du tout et qui fait un lien entre l'action et la réflexion. Donc le roi se trouve qu'il y a une unité dynamique dans la pensée-action qui est libératrice, tandis que l'action-pensée peut coincer. Blondel parle de l'action-pensée et donc il est obligé, lui qui commence par l'action, de défendre contre le roi l'élément logique de l'action. Le roi n'a pas besoin de discuter sur l'élément logique, il est le premier, il y a une logique. Mais Blondel doit montrer que l'action, c'est aussi la réflexion. C'est exigé par sa philosophie, tandis que le roi inclut d'avance l'intuition intuitive qui précède un discours morcelant. Je le dis encore autrement, dans l'intuition, on voit un ensemble. On voit tout d'un coup quelque chose. Et quand on l'explique, il faut le répartir. Mais le point de départ est une ouverture, je vois une chose. Tandis que Blondel voit d'abord quelque chose à défendre et l'ensemble suivra, mais fermé dans ce qu'il a déjà décidé dans sa raison. Ça va? C'est tard de réfléchir comme ça le soir. Il nous faudra un petit verre de vin. Alors, le roi, donc, ne pouvait pas s'entendre avec Blondine. Et donc, il y avait entre eux, pas seulement des divergences dans leur vie relationnelle, mais des divergences philosophiques. Je conclue. Vous me donnez encore 5 minutes ? Ça va ? Je conclue. Première conclusion, Édouard Leroy, comme beaucoup d'autres, met en cause le caractère obligatoire de la conception aristotélico-thomiste que l'Église présente comme la science et comme la conception dont est sorti l'ouvrage d'homme. Il faut savoir que le pape Léon XIII, voyant les difficultés, a obligé tout le monde de réétudier saint Thomas. Mais saint Thomas perçu d'une manière plus fermée que ce qu'il était. Donc le thomisme est devenu obligatoire partout, dans toutes les écoles, dans tous les séminaires, partout. Et donc, cette conception que l'Église présente est fermée. Et lorsque le roi, qui est parti de la critique des sciences et appuyé sur le bersonisme, appelle une conversion intellectuelle, c'est pour débloquer la pensée chrétienne trop liée à une seule logique. Alors, indépendamment de la religion, des gens qui ont une seule logique, on ne sait pas discuter avec eux. C'est pas la peine. Et la plupart du temps, ils n'entendent pas non plus ce qui se dit. Vous connaissez comme moi des gens, c'est pas nouveau ça. Et donc, dans cette perspective, celle de Leroy, les formules non seulement peuvent évoluer, mais doivent évoluer. On ne dit pas la même chose aux élèves. Quand j'étais dans l'enseignement au début, je ne disais pas la même chose en donnant la religion dans les années 61 qu'en 88, quand j'ai quitté. Le cours de religion n'était pas le même. D'abord parce que les enfants étaient différents, parce qu'ils posaient d'autres questions, et que leurs questions étaient souvent très intelligentes, mais il fallait leur montrer que c'était intelligent, et pas leur donner une réponse tout de suite. Et donc, je me rappelle une élève que... On avait une élève qui était une mulâtre, donc père belge et la mère africaine, et elle était insupportable parce qu'elle avait des complexes. Très jolie fille, c'était une classe de professionnels, et les professionnels que j'aimais beaucoup, c'était des enfants qui n'avaient pas de complexes, qui parlaient. Donc ils se disputaient, vous allez voir que c'était en lien avec ceci, et ils étaient une quinzaine, 3 garçons et 12 filles, et alors le départ joue, après ils ont discuté. Après, on est arrivé à une entente et ils se sont vraiment dit les vérités. Je vois comme une élève qui était dans le fond. Oh, dit madame, la vérité, ça rend libre. Dit, mais tu dis l'évangile. Quoi, je dis l'évangile? La vérité rend libre. Elles ont pu dire ce qu'elles pensaient calmement et tranquillement les unes aux autres et l'ambiance de la classe a changé. Chacun acceptant qu'il n'était pas comme l'autre, mais qu'il n'était pas mieux ni moins bien. Et ne pas oublier de montrer les qualités de chacun aussi. Et donc, le roi, donc, et on ne peut pas aujourd'hui faire une philosophie qui est uniquement thomiste. Alors, il appelle donc une conversion intellectuelle, et les théologiens conservateurs, face à son article, l'ont accusé de tout détruire. Il est comme un nouveau loisir, il casse tout. Parce qu'il tient trop compte de la mentalité moderne. Il ne faut pas tenir compte de la mentalité moderne, il faut dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Et le pape a raison. Et en plus, il modifie la foi. C'est plus la foi qu'on connaît. Ça, c'était les conservateurs. Alors, les modérés estiment qu'il faut maintenir la distinction entre la pensée et l'action. Et bon... ils ne sont pas aussi bloqués, mais la pensée est quand même première par rapport à l'action. Ou en d'autres termes, le spirituel est quand même plus important que le temporel. Alors, les blondéliens, eux, sont plus complexés, enfin, ont des réactions plus complexes. Ils sont d'accord avec le roi sur le primat de l'action. Oui, l'action, ça c'est important. Mais ils refusent la manière dont le roi le présente. Alors, pourquoi le roi... Alors, je vous ai montré aussi qu'entre Blondel et le roi, il y avait une divergence psychologique et spirituelle due à leur situation. Alors, pourquoi le roi apparaît-il comme un destructeur? À certains. Parce qu'il voit les choses autrement? Parce que sa raison fonctionne autrement? Parce qu'il cherche à mettre sur le même pied action et pensée? Il est clair que pour certains théologiens, on n'a pas le droit de penser autrement qu'en matière religieuse. Alors, c'est quand même moi le prêtre. Hein. Donc, on a entendu ça. Ou c'est moi le professeur. Ou c'est moi ton père. Hein. Maintenant, les enfants disent « je m'en fous ». Et quand on sait les parents, ils font quand même ce qu'on veut. Et donc, contre le roi, ils dépendent, selon leur tempérament, soit le dépôt de la foi, le dépôt de la foi, on ne peut pas y toucher, soit leur statut de clerc, et alors ce que Werrier fera, ce qui n'était pas très gentil par rapport à son ami Blondel, quand Blondel n'était pas tellement d'accord, il dit « écoutez-moi le prêtre ici ». Il ne nous a plus rien dire. Et la compétence est liée à leur statut. Je suis prêtre, donc je sais mieux. Ou bien, certains préféraient la permanence de la philosophie thomiste, solide, qui était la base de leur certitude. Maintenant, à ces raisons s'ajoutait aussi le désarroi Monseigneur Clavet, qui était pas un Monseigneur dans un évêché, mais qui s'occupait des affaires de notaire dans l'Institut catholique. C'était un Monseigneur, mais ce n'était pas un évêque. Il disait, si vous racontez un jour la crise moderniste, dites bien qu'on a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Alors, Sertillange montrait que même un thomiste, qui est intelligent, équilibré, peut interpréter l'article selon l'orthodoxie. Mais dire ça, c'était évidemment le faire condamner. On peut comprendre le roi de manière orthodoxe. Alors ça, c'était ce qui était fondamentalement en cause. Ce n'est pas la définition du dogme que le roi ne conteste pas, mais la manière de l'interpréter. Et donc les tentatives de le roi sont aussi éloignées des scolastiques que des blondeliens. Et donc c'est surtout au niveau des mentalités que les choses sont différentes. Et Émile Poulain a raison lorsqu'il dit il y a la philosophie, la théologie et la psychologie. Tenir compte de la psychologie des gens, parmi les partisans des deux bords. Et alors, l'une des démarcations, c'était le fossé entre la mentalité scientifique, la mentalité littéraire et la mentalité philosophique. C'est de manière différente de penser. Donc, la crise moderniste est vraiment une crise d'intellectuels. Et cette opposition était beaucoup plus tranchée jadis. C'était deux univers. Et le roi qui était un peu entre les deux était un peu une exception. Dernière conclusion, il était laïque, donc étranger à toute école théologique. Il n'avait même pas été éduqué dans un collège. Donc le roi avait l'avantage de pouvoir s'exprimer plus librement qu'un clerc sur la théologie. Il n'était pas coincé. Et il l'a fait avec beaucoup plus de nuances qu'on le pense. Mais il fonçait parfois un peu. Il y allait certaines maladresses quand il a vieilli et sa fille me disait parfois, j'étais un peu fort quand même. Son interprétation du dogme était très bonne, mais son langage courait le risque de n'être pas compris. Il était jeune, hein, il avait 30 ans. Quand il en a 60, il dit oui, j'ai quand même été un peu fort. Mais on peut dire en effet que sa position apparaissait hétérodoxe. Émile Poulain dirait plutôt « le roi était orthodoxe trop tôt ». On ne peut pas dire ça, mais ça dit ce que ça dit. Il a trop tôt compris ce que maintenant on accepte sans problème. Alors faut-il conclure que le magistère se trompe? Non, car il doit juger en fonction de toute l'Église. Il ne peut pas donner un avis. Et donc, il faut prendre des mesures disciplinaires, surtout à l'époque, à l'égard des francs-tireurs. Maintenant, le dépôt de la foi apparaissait à l'époque comme un sac plein de vérité. Ça, c'est le dépôt de la foi. C'est l'Église qui les possède. Et donc, c'était sans doute pas une raison suffisante pour passer à l'autre extrême, mais ce n'est pas ça du tout que le roi a fait. Le nœud du débat n'était pas non plus dans la question du laïc ou du prêtre, dans la mesure où un clerc qui aurait pensé et agi comme le roi, il aurait été condamné comme lui, on l'a vu. Dans la mesure où le laïc est considéré comme inférieur au prêtre, alors on touche à la question du pouvoir dans l'Église. Qui a le pouvoir ? Le roi, parce que laïc, s'est heurté à cette intransigeance qui tend à séparer le temporel et le spirituel, en sachant que le spirituel est plus important que le temporel. Selon ceux qui interprétaient saint Thomas. Et donc, les positions de le roi touchaient la corde sensible d'une raison chrétienne qui aurait voulu être ce qu'elle avait toujours été, la norme de toute raison. Nous sommes les meilleurs. Et je me rappelle que petite, à l'école, on disait la religion chrétienne, c'est la seule, la meilleure. Toutes les autres sont des mauvaises. On a appris ça. Et on disait, ah oui, on se tracassait partout. Alors, qu'il soit clair ou laïque, le penseur chrétien devenait suspect dès que ses idées religieuses provenaient de courants dont l'Église, c'est-à-dire le magistère, n'était pas à l'origine. Si quelqu'un disait une chose que le magistère n'avait pas dit ou ne pouvait pas dire, c'était pas bien. Et sans doute, elles auraient applaudi à la proposition de le roi si elle l'avait inspirée elle-même, l'Église. Mais alors, il n'y aurait sans doute pas eu de crise moderniste. Merci pour votre patience.